Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte extra Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël avec vous.
Cube, Stitchers, Google Play, Apple Podcast, Spotify, laissez-nous 5 Star, Frog Splash, achetez le livre de Pat Laprade, André Le Géant.
Écoutez le podcast sans restriction de Kevin Raphaël.
No Way Out 2003, 23 février 2003, Montréal, Centre Bell.
Mais là, attends une minute, tu dis même pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, on va vous faire une revue. Ça fait longtemps qu'on vous a pas fait de revue.
Si cliquent là-dessus, c'est parce qu'ils savent.
Peut-être pas. Comme tu m'as déjà expliqué, ça vient dans leur liste.
T'as raison. T'as raison.
Donc, on va vous faire une revue d'un événement du passé. Et on a choisi, c'est le temps de la Saint-Jean-Baptiste, donc on vous choisit un événement qui s'est déroulé ici, à Montréal. Et comme Kevin le disait, le 23 février 2003, No Way Out.
C'est un pay-per-view que je m'en rappelais plus.
Étais-tu là, premièrement?
Non.
T'avais quel âge?
2003, 11 ans.
Ah, OK.
Mais j'allais tout le temps voir des shows de lutte. Mais ça, c'est comme la partie de lutte que je l'écoutais, mais j'avais aucun plaisir.
OK.
Ça, c'est les années que The Rock était cool, mais il partait, il revenait.
Ben oui, mais il commençait à Hollywood.
C'est ça. Moi, j'ai jamais trippé sur Hulk Hogan, là, malgré l'affaire de racisme. Stone Cold, ça a jamais été un de mes préférés, Stone Cold.
Ah non.
Mais parce que...
On peut bien être aux antipodes.
Non, mais on dirait que j'étais trop jeune pour comprendre ce que Stone Cold faisait.
Ah, je comprends.
J'étais trop jeune pour comprendre qu'il était contre son boss pis que tout le monde voulait faire ça. Fait que Stone Cold, ça a jamais été vraiment... Pis Triple H comme main guy... Pour moi, ça faisait rien. Parce qu'il commençait toutes les Raw avec une promo de 100 ans, de 25 minutes. Puis moi, j'avais le droit d'écouter une heure de Raw live.
C'est tombé drôle, ça.
Puis après ça, je pouvais écouter le reste le lendemain matin.
Moi, j'étais pas là non plus. Parce que moi, j'avais commencé... c'est un rare choix important que j'ai manqué dans les 20 dernières années. J'avais commencé à travailler chez Tim Hortons comme gérant. Ouais. J'arrivais de Burger King et j'avais un entraînement de 2 mois à Oakville, en Ontario, en banlieue de Toronto. Donc là, moi...
Pour être gérant du Tim Hortons?
Être gérant d'un Tim Hortons, j'avais une formation de 2 mois.
De 2 mois?
J'étais payé dans un Holiday Inn...
Ça, tu niaises, Pat?
À Oakville, en Ontario.
Les Tim Hortons ont changé!
Ben, écoute... Puis, quelqu'un faisait la formation en même temps que moi. Mm-hmm. C'était lui, il faisait une formation pour être un poste plus haut que moi. C'est le gars qui avait été le premier gérant du WWE Niagara Falls.
Wow!
Et lui, il était venu à Montréal pour No Way Out parce qu'il venait de lâcher Vince, puis il avait encore des choses à régler avec Linda. Et tu sais ce que Vince lui avait dit?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Vince lui avait dit: je peux pas croire que tu me lâches pour une compagnie de beignes.
Wow.
Et lui avait répondu: oui, mais Vince, c'est la plus grosse compagnie de beignes au monde. Ouais. Et mais moi, je veux pas, je travaillais le lendemain, je travaillais la journée même, je pouvais pas. Fait que j'avais été à Niagara Falls. Le WWE Niagara Falls existait encore.
Ouais.
Et j'avais été voir, ils montraient les pay-per-views. Le pay-per-view, j'avais répondu à des questions, j'avais gagné des prix. Ça avait été vraiment cool, fait qu'au moins, je l'ai pas écouté chez nous tout seul. Il y avait une sale tempête de neige à Montréal cette journée-là.
Ah ouais?
C'était fou. On le voit, mais si t'écoutais le pay-per-view, à un moment donné, on voit des
images
de la neige et tout ça.
Comment si j'ai écouté le pay-per-view?
Et un de mes amis avait été là et il avait perdu ses clés. Il était peut-être un petit peu moins à jeun. Et il avait perdu ses clés dans la neige tellement qu'il y avait de la neige. Donc, ça m'avait bien fait rire d'avoir cette anecdote-là. 15 114 fans à la place Bell, au Centre Bell plutôt. C'était le premier pay-per-view Kev depuis Survivor Series 97 à Montréal,
puis
bien entendu.
Le team song, c'était Evanescence.
Evanescence. Hey, pour vrai, si tu savais le nombre de lutteurs au Québec qui sont rentrés sur Evanescence dans ces années-là, c'était incroyable. Drôle. C'était une plaie.
Premier ministre du Québec était?
En 2003?
Ouais.
Ah, shit, j'étais pas prêt pour des questions. Jean Charest.
Non. Bernard Landry, premier ministre du Canada était?
Premier ministre du Canada en 2003, c'était à Colin, que là tu me demandes de...
Je sais.
Je pensais pas à ces questions tout de suite.
Non, c'est pas tout de suite, mais c'est juste que vu que...
Non, je sais, mais attends, en 2003, et là j'ai l'air des gars qui font les affaires de Guy Nantel pis qui savent pas quoi répondre.
Oui, mais 2003, c'est loin, là.
Ouais, non, je sais, je sais.
Il y a plein de gens à la maison qui roulent, puis même moi, j'ai fait avant de checker, là, pis j'ai pas eu les deux
bonnes. Mais c'était qui avant Stephen Harper? Bon, Tayenne. Donne-moi un indice, ses initiales.
Il y a un joueur d'hockey qui a le même nom.
Ah oui, c'était Paul Martin.
There you go.
Paul Martin, bon, good.
Je vais donner l'indice le plus facile de l'histoire. Okay. OK, fait que, bon, on y va?
Ben, on y va, on n'a pas déjà commencé?
Oui, mais là, on va parler de la carte. Juste mentionner...
Sonne la cloche, Fred, on va commencer.
Juste mentionner que j'ai jamais écouté le pay-per-view live. Fait que je pense que c'est un des cinq pay-per-views que j'ai jamais vu de toute ma vie live.
Okay. Il y avait pas de JR au commentaire?
Non, mais oui, mais c'est ça, parce qu'il y a un angle.
Il y avait un angle.
Ouais. Non, mais il y avait un angle, genre, il se ramenait dans le show. Après.
Non, je sais, ouais. Mais il était pas là au début. Ouais. Parce que c'était fait, genre, péter un bloc de ciment. Ok, tu vas en parler tantôt. Oui. Ok, c'est beau.
Puis c'est ça, je voulais dire que j'étais pas un fan de Scott Steiner. J'écris en gros pas fan de Scott Steiner. depuis vu de 2h30, j'étais vraiment content. On aime ça, les commentaires, c'était King et Coachman. Premier match, Chris Jericho face à Jeff Hardy.
Attends, dark match.
J'ai pas parlé.
Je l'ai pas vu, mais au moins de mentionner. C'était Sunday Night Heat à ce moment-là qui était tapé avant les pay-per-view. Rey Mysterio contre Jamie Noble.
Qui est gagné?
Je l'ai pas noté. J'ai pas vu le match.
OK.
Ça doit être Rey. Je peux pas croire, c'est pas Rey.
Le vidéo d'entrée de Chris Jericho, là.
Ouais.
Il y a rien de mieux. Chris Jericho est un living god, OK? Chris avait tout. Il avait son look avec sa longue tresse, là, qui était comme parfait, et son long goatee était méga over. Le glue, c'est Jeff Hardy. C'est le glue in the dark. Jeff Hardy était dans sa phase, première phase de glue in the dark, là, avec sa danse puis sa face, son Titanatron. Hardy, c'est le ultimate babyface, comme d'habitude. Très bon opener. Exactement ce qu'on s'attend à un match entre Jeff et Jericho. Ils se connaissent bien. Walls of Jericho sur Hardy, tap out. Sean vient pour sauver Jeff Hardy parce que Jericho garde le Wall of Jericho. Sean a le hero spot à Montréal. Il reçoit une ovation à Montréal.
Mais attends une minute, là. Au début, là, parce que ça m'amène à parler de Jericho. As-tu vu comment Jericho était méga over dans le match? Beaucoup plus que Jeff Hardy.
Oui, mais.
Jericho, c'était le babyface du match. Parce qu'il était justement, entre autres, bon, je sais qu'il est Canadien, mais en plus, il était en rivalité avec Shawn Michaels. Shawn Michaels à Montréal, c'était pas notre préféré à l'époque.
C'était supposé être un heel.
Et d'ailleurs, quand Shawn sort à la fin, il est hué. La première réaction, c'est de le huer. Mais là, à cause qu'il est athlétique, puis bon, il ramasse tout le monde, ben là la foule est comme, a comme grandi en arrière, puis comme fait, oh wow, c'est Shawn Michaels. Mais sur le coup, il a été hué. C'est la première fois qu'il revenait à Montréal depuis 97. Écoute, le match était bon, un petit peu sloppy à certains endroits. Oh. Le Lion Salt, Hardy, il était loin sur le Lion Salt, là. C'était pas le meilleur des spots. J'ai bien aimé le match.
Ce match-là était comme.
12 minutes 58, 3 étoiles l'écart de Dave Meltzer.
OK, fait qu'on est... Mais pour vrai, ce match-là était excellent, là.
As-tu remarqué que comment loud étaient les two?
Oui.
Tu sais-tu où ça a été inventé?
Ben à Montréal.
À Montréal, c'est ma gang qui a inventé ça. Je te niaise même pas, j'ai écrit un article là-dessus.
Je sais, tu m'en passes tout le temps.
C'était à la IWS, à Laval, qu'on a commencé ça.
Laval ou rien.
Puis à un moment donné, à Montréal, un de mes amis, Claude Le Brain, Tousignan, qui avait rallié la foule à chanter ça, les tout, quand il y avait un compte de deux. Et c'est devenu un phénomène mondial par la suite. Mais c'est pas comme l'invention de la poutine, là. Ce que je vous dis là, c'est vrai.
J'adore la chimie entre Shelton, Charlie Haas et Angle. Leur call sur les Walking Gorillas and Two Canucks, j'ai adoré ça. Ils parlaient...
Il disait qu'il n'y avait pas d'héros olympiques canadiens. Ouais. L'équipe olympique canadienne avait gagné la médaille d'or en 2002, l'année d'avant au hockey. Je trouvais ça drôle, mais c'était heel.
Puis Evolution qui arrive en limousine, mais juste pour dire, Charlie Haas et Shelton, man, il y avait tout en 2003. RVD et Kane face à Lance Storm et William Regal pour les championnats par équipe du monde.
Ben c'est ça, c'est parce que dans le fond, WWE, t'avais les champions de WWE puis les champions du monde. Ouais. Fait que Storm et Regal étaient les champions à ce moment-là.
WWE, t'aimes mieux quelle équipe entre Bryan et Kane ou RVD et Kane? Ah, c'est une question que j'avais écrite pour toi.
Tu m'as répété parce que là,
t'aimes mieux quelle équipe entre Bryan et Kane ou RVD et Kane?
J'ai trouvé Daniel Bryan et Kane plus divertissant.
Mais RVD et Kane, ils sont vraiment hot dans le ring.
Oui, mais je veux juste te dire, moi, oui, mais ça me demande.
Oui, je sais, mais on jase. C'est ça le but du podcast. Non,
moi, j'ai plus aimé. Ouais. Je trouvais, tu sais, Team El No puis leur dynamique. Ouais. Je la trouvais meilleure que RVD et Kane.
Excellent tag match. Le heat a été sur RVD pas mal tout le match. Une équipe très technical, celle de Storm et Regal. J'ai adoré. Cette équipe-là, là, était parfaite, Storm et Regal. Aujourd'hui, cette équipe-là, ça marcherait solide. Storm, le plus underrated de cette era-là, puis je vais jamais comme dire le contraire, si seulement il pouvait faire des promos. Puis ça fait quelques matchs de lui qu'on fait sur les extras. On l'a comme vu sur l'évolution, Alan
Storm. C'est vrai, c'est vrai. Lui aurait bénéficié d'un gérant
à
mener dans sa carrière. Je pense qu'il n'y en a jamais eu. Pas un gérant qui parle. T'sais, il y a eu, Francine qui a eu à ECW?
Non, je ne m'en rappelle plus.
Je pense que c'est Francine qui a eu quand il était avec Justin Credible. Ouais. Mais il aurait tout bénéficié d'un vrai gérant.
Ouais, ben attends, je vais juste finir.
Ben non, vas-y.
On oublie souvent l'athlétisme de Kane. Il est son gros saut du top rope, oui. Malade. Puis Kane gagne avec un choke slam sur RVD parce que Kane ne voyait plus.
Ben oui, Kane ne voyait plus. Il y en a un des deux qui a poussé RVD sur Kane. Kane a fait le choke slam. Puis ben écoute, ça l'a mené éventuellement au pin. Ouais. Mais aussi, tu sais, tu voyais qu'il commençait déjà à mettre des blocs dans la séparation de l'équipe. Ils ont eu un règne de champion. Puis 4 mois après, ils feudaient déjà un contre l'autre RVD.
Moi, j'ai mis 3 sur 5 parce que le finish était shit, mais le match était vraiment le fun à regarder.
9 minutes 13, Meltzer avait donné 2 étoiles et quart. OK match. Rien d'extraordinaire, mais c'était correct.
C'est un bon match sur un pay-per-view. On l'aurait pris dimanche à Backlash.
Oui, on l'aurait pris à Raw bien souvent dans les dernières...
Billy Kidman et Matt Hardy.
Attends. Mattitude. Faut-tu parles de la promo de Mattitude avec Shannon Moore ou ce que là, t'as Matt Hardy puis Jeff Hardy qui s'obstinent backstage et...
Les promos, j'aimais juste quand ils sont bonnes.
Puis Jeff qui le claque au visage. Et j'ai adoré parce que il y avait les affaires un peu comme on voit maintenant avec Matt Hardy à AEW. Ouais. Je trouvais que c'était un beau throwback où ce que c'est marqué Matt is annoyed
by... les Matt Facts.
Les Matt Facts. T'avais Matt is annoyed by snow and ice.
C'est drôle,
il y avait une grosse tempête de neige, puis là il disait qu'il était genre ça le gossait la neige et la glace, donc je trouvais ça drôle. SmackDown, c'était Michael Cole et Taz qui sont arrivés.
Ah, c'est vrai, c'était les dual.
T'avais SmackDown puis Michael Cole, il est-tu différent avec aujourd'hui?
Man, il est tellement bon le Michael Cole.
Il a l'air tellement cool ce Michael Cole là.
J'ai des notes partout sur moi. Il est bon. Billy Kidman face à Matt Hardy, accompagné par Shannon Moore pour le titre Cruiserweight.
Ouais.
Billy Kidman,
c'est le champion. C'était le champion.
Ouais. Il y avait le meilleur thème of all time. À quel point je savais pas. À quel point j'avais oublié. Matt Hardy aussi avec le « Oh yeah! » Shannon Moore a aidé Matt pour atteindre son poids. Non pas de 205, mais bien le 220.
Oui, c'était 220 livres à ce moment-là. Ouais, et on l'a répété souvent dans le match que genre il y avait
c'est la gimmick.
Il avait perdu du poids pour obtenir 220 livres.
Puis je trouve que ça met over le championship parce que le gars, il a tout fait pour essayer de pouvoir compétitionner pour ce titre-là.
Mais imagine comment ça a changé. Ouais. Un cruiserweight, c'était 220 livres fou, à ce moment-là. Puis là, c'est déjà 15 livres de moins.
Hardy a eu l'avantage tout le match. Cole et Taz sont vraiment le fun. Cole est tellement plus lousse et tellement plus cool.
Ouais.
Kidman et son shooting star, wow, c'est le plus beau shooting star de la business.
C'est vrai qu'il était beau.
C'est le plus beau shooting. Bon finish, bon match. Est-ce que Matt Hardy pourra faire le poids? C'est ça le cliffhanger de ce match-là. Moi, j'ai mis 3 sur 5 parce que les comebacks de Billy Kidman étaient... Il était vraiment bon, là.
Twist of Fate de Hardy du troisième pour... Twist pour of Fate du troisième, là, c'était un beau finish.
Très bon match.
Écoute, moi c'était mon match préféré à ce moment-là dans le show.
Ouais.
9 minutes 31.
J'ai bien aimé Jeff puis
moi j'ai plus aimé ce match-là.
Parce que je trouve que
Matt Hardy... spectaculaire.
Matt Hardy a eu l'avantage... Mais il était spectaculaire sur des bribes. Parce que Matt Hardy a eu tellement l'avantage longtemps... Puis Billy Kidman, il y a eu comme quelques éclats à gauche à droite, mais qui étaient spectaculaires, fait que je comprends.
Meltzer avait aussi donné 3 étoiles.
Ah, on s'entend enfin. The Big Show versus Undertaker, voir Taker bouger de même, ça n'a pas de bon sens. Comme ce gars-là, il bougeait pour un big man, c'était incroyable. Surtout en 2003, c'était pas sa première année. Show aussi est impressionnant, correct. Il a l'air plus confiant.
Oui, non, mais vas-y, vas-y. Mais juste avant de rentrer dans le match, je veux faire une intervention. Vas-y, vas-y. J'allais juste dire que je vais juste donner un peu le background de ce match-là. Ouais. Parce que dans le fond, Big Show avait passé Taker à travers genre un stage dans les semaines qui avaient précédé. Puis là, ensuite, ce qu'il faisait, c'est que il était jamais là. Puis là, le Taker l'appelait, puis il se présentait jamais. Puis il envoyait toujours quelqu'un d'autre à sa place. Puis là, il envoyait, mettons, Brian Kendrick déguisé en messager qui chante. T'avais Brother Love, qui était le premier gérant du Undertaker. T'as eu Canyon, qui chantait du Boy George. T'as eu un chien. Puis là, à un moment donné, Big Show l'a attaqué par en arrière. Et c'est de même que le match a été construit là, pour le pay-per-view.
Parfait.
Ben, vas-y.
Donc, très bon storytelling dans le match. J'ai adoré ça. Taker qui fait un Dragon Sleeper.
Oui. Oui, ben Taker, il commençait là, à faire des moves comme ça là, à ce moment-là.
Mais je trouvais ça hot qu'il fasse un Dragon Sleeper sur un pay-per-view sur le Big Show. Pas capable de soulever Big Show, c'est ça le storytelling du match. Plancha de Undertaker, choke slam, puis il finit par le gagner avec le Triangle Choke. Je pense que c'est la première fois qu'il gagnait avec le Triangle Choke parce que Cole était tellement impressionné. Ouais. Que Taker fasse... Enfin, je me suis dit, c'est probablement...
Ça a commencé en février 2003, ce
move-là. C'est probablement la première fois qu'il gagne.
Ouais, ouais, absolument, absolument.
Par la suite, A-Train et son dos poilu attaquent Taker après le match. Yo, ça, là, j'ai toujours me rappelé. À chaque fois que je le voyais, là, j'étais comme, mais c'est dégueulasse, ton dos. J'ai mis 3 sur 5 pour le match. C'était vraiment un bon match de Big Man. Puis c'est un des meilleurs matchs de carrière de Big Show.
C'était un gros match de poids lourd, effectivement. Puis là, c'était le Taker plus en Dead Man qu'on a vu Taker qui a blédé dans le match également, une bonne blade, un peu de sang. Et puis la foule, moi là, la foule a tellement levé sur le suicide dive de Taker par-dessus
c'est
le troisième.
C'est un suicide ou un plancha?
C'est un suicide par-dessus le troisième.
Ben c'est un plancha.
Mais en tout cas, tu peux appeler ça aussi suicide dive par-dessus le troisième. Tu peux appeler ça...
Whatever, là.
Ouais. Anyways. Ouais, non, c'est pas un plancha parce que je pense parce qu'il arrive vraiment comme en suicide dive. Okay. Bref, anyways. Mais écoute, la foule a levé. Ça n'a aucun bon sens comment elle a levé. 14 minutes, 8 secondes, Meltzer avait donné 2 étoiles. Peut-être un petit peu sévère.
2 étoiles?
Ouais.
Team Angle versus Chris Benoit, Brock Lesnar, parce que leur partenaire Edge s'est fait attaquer.
Mais attends une minute. Il y a eu une promo avant.
Ouais, mais les promos je les enlève.
Non, mais c'est important de le mentionner. Mais
j'allais l'expliquer. Là, il se fait attaquer, puis là...
Qui se fait attaquer?
C'est Edge qui se fait attaquer.
Non, Edge, c'était avant le match de Big Show. Là, ce qui se passe, j'en ai pas parlé d'Edge parce qu'on va en parler avant le match en question. C'est là que t'allais en parler. Moi, ce que j'allais te parler, c'était que Bischoff se fait dire qu'il va se faire con. Et en fait, Bischoff est le GM de Raw, puis il est avec son assistant Val Venus, et il concocte un plan comme quoi tout le monde va venir l'aider Bischoff pour battre Stone Cold Steve Austin. Et Vince arrive puis il dit, hey, si tu te fais aider, tous ceux qui vont t'aider vont se faire congédier. Donc ça met un peu le plan de Bischoff à l'eau. Vas-y avec l'attaque de Edge.
Donc Edge se fait attaquer, il se fait amener en civière si je me trompe pas.
Ouais,
je pense qu'il y a le stretcher angle, fait qu'il peut pas être là, et là finalement Brock Lesnar et Chris Benoit doivent affronter Team Angle en handicap match.
Ouais. Team Angle, Kurt était champion à ce moment-là.
Kurt était champion, puis les boys étaient champions par équipe.
Exactement.
J'adore ce concept-là. Comme les gars sont bons, ils dominent, c'est eux les champions.
Ouais.
Un peu comme il y avait avec Undisputed Era, je trouve que ça met de la valeur sur les titres puis sur les champions. Donc très badass Team Angle. J'ai tout le temps de la misère à regarder des matchs de Chris Benoit, mais c'est le premier match de Chris Benoit que j'avais moins de la misère à regarder. Fait que on dirait que le documentaire de Dark Side of the Ring
ça
m'aide à faire la paix.
C'était le premier match de Chris Benoit au Québec.
Hein?
Sa province natale.
C'est quand même fou.
C'était son premier match au Québec. Ouais.
Bon, on y va. Lesnar, une méga star, malgré son jeune âge. Edge était supposé l'être.
Il était over. La foule adorait Brock. Là, c'était fou.
Fast pace, vraiment dynamique. Les babyface sont des méga babyface. Lesnar était plus gros babyface que Chris Benoit.
Ah ben oui, absolument.
Puis Benoit, il venait d'ici.
Ouais. Ouais, mais ça, le monde le savait plus ou moins à ce moment-là.
Non, mais c'est un Canadien, dans le fond.
Oui. Ouais,
Benoit, c'est une machine dans le ring. Là. On l'oublie souvent avec qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a pas grand monde qui pouvait le toucher dans un ring de lutte.
Mais il y avait du talent là, dans ce ring-là. Là.
Man,
les moves s'enchaînaient. Tout le monde.
Les matchs marchaient.
Pour vrai, là, Charlie Haas, Shelton Benjamin, Kurt Angle, Brock Lesnar, Chris Benoit, hey, c'est fort, là, côté talent, là.
Puis, bon, c'est ça, là. Moi, j'ai mis que le match, moi, j'ai mis 4 sur 5 pour ce match-là.
Meltzer aussi.
C'est un des, c'est mon meilleur match de la soirée.
Vous êtes comme pareil?
Non, vraiment pas. Mon meilleur match de la soirée.
Attends, moi, ce que j'ai noté là-dedans, Taz, qui dit Montréal à peu près 8 fois dans ce match-là, et qui dit qu'il va d'un parlez-vous français. C'était très, très drôle. Brock était complètement en feu. À un moment donné, là, il est là contre les trois. Ouais. Belly to belly. C'était beau à voir. Le Charlie Haas qui a tapé out sur le crossface pendant que Brock Lesnar faisait son F5 sur Kurt Angle. Match de la soirée, en ce qui me concerne. Super match. 13 minutes 19. Ça l'a mené à, ben on le sait, le mois d'après, c'était Brock contre Kurt Angle, parce que ça, c'était le pay-per-view avant WrestleMania 19 à Seattle. Donc, c'était Brock contre Kurt. Et le SmackDown d'avant, Paul Heyman s'était viré contre Brock Lesnar. Donc, c'est pour ça que Lesnar est aussi babyface également. Là, je pense que ça avait aidé.
Moi, un des pires matchs que j'ai vu dans toute ma vie, Steiner et Triple H.
Triple H, qui est champion du monde, qui est accompagné de Ric Flair contre Big Papa Pam.
Bon. Oui. Steiner comme babyface, il est pas un babyface. Ben comme Rey Mysterio, c'est pas un heel. Ouais. Steiner, c'est pas un babyface. Tu peux pas être babyface si tu te promènes avec une chaîne sur ta tête, un fucking goatee blond avec une pinch black, puis que tu kisses les pipes. Tu peux pas être babyface. C'est impossible. Triple H, c'est un très bon heel, mais je sais pas, dans cette era-là, j'ai pas trouvé que c'était le top heel. J'ai pas trouvé que son heel work, c'était le meilleur heel work qu'il y avait.
On était, comme on l'a dit tantôt, on était 20 jours après Evolution, ouais. Après la naissance d'Evolution, puis c'est sur le dos de Scott Steiner qu'Evolution s'est créé.
Ouais,
là.
C'est
eux autres, c'est lui qui avait attaqué au mois de 20 jours avant, le 3 février. Puis il avait battu Chris Jericho, Steiner, ouais, pour se mériter un match de championnat contre Triple H.
Faut qu'ils arrêtent d'appeler Steiner Freakzilla, là.
Mais ils ont arrêté, là.
Puis Evanescence, le vidéo package, c'est le seul truc que j'ai trouvé nice.
Bon, plus capable d'entendre
la tune de Scott Steiner, Hola If You Hear Me. Si Billy Kidman a la meilleure chanson, Steiner avait le pire thème ever. OK. Bon. Ah, oh, puis t'as-tu vu sur ses pads qu'est-ce qu'il avait écrit?
Non.
69. C'est un babyface, ça?
Ben non.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Là, j'ai écrit, je veux-tu vraiment regarder Triple H contre Scott Steiner? Oui. Steiner est tombé en donnant un coup de pied.
Ouais.
Il est tombé en donnant un coup de pied. La foule était tellement sick du match qu'ils ont dit Steiner sucks au début, le babyface. Par la suite, Triple H essaie de se faire disqualifier. Pourquoi Herb Ebner pousse Triple H dans le match?
Ah, ben non, mais ça, il y a une histoire en arrière. C'est parce que Triple H, dans le fond, il avait battu Scott Steiner par disqualification au Royal Rumble. Donc là, il voulait pas disqualifier Triple H.
Je sais, mais pourquoi il pousse? Pourquoi Herb Ebner?
Parce que Triple H l'a frappé?
Ben, Herb Ebner, c'est pas l'arbitre.
Non, mais il fait sentir sa présence. Hey, tu me frapperas pas.
Non, je suis pas d'accord avec ça.
Moi, je me permets à ta ça. Place.
Comme le gars d'un pied frappe ton World Heavyweight Champion.
Frappé,
non, mais
il l'a poussé.
Il l'a poussé, tu pourrais te reculer comme si, je me suis fait pousser.
Ben, il était surpris.
Hey.
Non, il a été surpris.
La foule était pas contente de chanter Boring.
Mais la foule, là, c'est parce que, oublie pas, c'est la foule de Montréal. Tu sais, ouais. Bizarro World, pis tout ça, ça arrivait dans
le match. Ouais, mais le match était shit aussi.
Ce que je veux dire, c'est Steiner et le Babyface, il se fait huer. Triple H et le heel, il se fait applaudir.
Mais c'est pas fait beaucoup applaudir. Là. Il s'achetait Boring, puis ça huait. C'était pas bon ce match-là.
Mais il y avait, oui, je le sais, mais il y avait quand même beaucoup de heels qui se faisaient applaudir dans le show.
Oui, oui, oui.
Bien des babyface qui se faisaient.
Je suis d'accord pour les autres matchs, mais pour ce match-là, je suis pas d'accord. Les gens, ils ont shit là-dessus.
Ben, les gens, ils ont shit sur le match. Au
oui,
complet.
Sur le match, c'est ça. Ouais. Big Papa Pump, zéro fluide dans le match. J'ai écrit, watch, c'est sérieux. C'est fini avec un coup de Triple H avec le titre à Scott Steiner.
Il a frappé Steiner avec
la tête. Fast finish sur un pedigree. Ils ont fait un false finish avec. Oui!
Non, il l'a frappé avec la belle.
Il l'a frappé avec la belle. False finish. Après ça, ils ont fait le pedigree.
Exactement.
So, mais pourquoi ils n'ont pas juste gagné avec le coup de belt? Il n'y a personne qui a pris sous le false finish, là. Tout le monde a fait. Mais damn, le match continue.
Je sais,
mais. J'ai mis 1 sur 5 parce que les gars se sont présentés dans le ring. Je peux pas mettre 0.
t'es quasiment la même chose, mais Arthur a mis trois quarts d'étoiles.
Hey!
13 minutes une, vraiment le pire match du show.
Que j'ai vu depuis longtemps.
Et voilà.
Bischoff, Stone Cold, Eric avait 30 jours pour tourner Raw, cul par-dessus tête, sinon il était fired.
Ouais.
Il devait signer Stone Cold, sinon il était fired. Ils ont même fait un angle où entre JR puis Eric, puis Eric frappe JR avec un bloc de ciment. J'ai toujours haï les angles de ciment.
Mais ben, c'est parce que dans le fond, Bischoff avait blâmé JR. Il disait que c'était JR qui avait convaincu Stone Cold de pas vouloir signer. Et là, à un moment donné, JR finit la journée que Vince, les 30 jours finissaient puis devait congédier Bischoff. JR est arrivé en disant non, je viens de parler à Stone Cold, il va être là par contre juste à No Way Out le 23 février. Et là il y a eu un match la semaine d'avant au Raw d'avant où ce que Bischoff et JR Bischoff il a fait ses démonstrations de karaté puis il a explosé un bloc de ciment sur la tête de JR, ce qui expliquait son absence au début du show. Puis là ben il revient dans ce match là puis hey, il est-tu en feu quand il revient?
Il est-tu over?
Ah puis il est en tabarnak aussi, là. Écoute,
ça, c'est good JR.
Ouais, c'était vraiment, vraiment cool à voir.
Eric Bischoff, un des plus grands heels de tous les temps, top 5, toutes positions confondues. Fight me on that.
Ah, ben, j'ai pas le goût.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire.
T'as pas raison, mais j'ai pas le goût. Ben là.
Mais non, mais tabarouette.
Ben oui, mais c'est pas un top 5 de tous les temps.
Heel? Pour aller chercher du heat?
Il y a eu beaucoup plus de meilleurs heels. Ça a été un excellent heel, puis un des meilleurs de son époque. Ça, je vais te donner ça.
Après, OK, des années 90 d'abord. Après la marque que Steiner nous a donnée, la foule était...
Ouais, t'es déjà beaucoup plus raisonnable en disant les années 90.
Ben, je suis capable... Quand on discute, au lieu de dire « Oh, mais j'ai pas envie de parler », j'ai discuté, puis on a trouvé une solution. La foule était prête à voir Stone Cold Steve Austin contre Eric Bischoff.
Ben, écoute, on n'oublie pas, là. Stone
il venait
Cold,
de quit.
Là, Stone Cold était parti à l'été 2002. Puis là, finalement, on avait convaincu
de revenir.
Il y avait eu des pourparlers entre lui et Vince McMahon à la fin de l'année 2002.
Moi, je conseille les gens d'aller écouter le dernier podcast ça passe dans deux semaines. Un des podcasts, Grilling JR, ils ont fait 2h30 sur le départ de Austin. Toutes les dessous, c'est vraiment intéressant.
Cool. Ouais, ben c'est ça. Mais dans le fond, là, résumer l'affaire, il voulait pas perdre contre Brock Lesnar.
Mais en fait, pas perdre contre Brock Lesnar, pas de build, là.
Non, exactement. C'était à King of the Ring dans un tournoi par rapport. Puis finalement, bon, il y avait d'autres affaires au niveau créatif qui étaient pas super contents. Il aimait pas le rôle que Triple H avait, puis en 2002. Puis il aimait pas non plus d'avoir eu un match juste de 7 minutes à WrestleMania 18 contre Scott Hall. Bref, il y avait plusieurs raisons. Il est parti.
Puis
là, c'était son retour, là. C'était son gros retour. C'est à Montréal que ça se passe, là. C'est vraiment cool qu'on y pense, là.
Puis il avouait qu'il y avait des problèmes personnels aussi qui venaient.
Oui, avec Debbie, avec sa femme Debbie McMichael à ce moment-là. Ouais.
Bon, Austin avec les stunners. Mais le match est vraiment simple. Là. C'est stunner, lève le bras, false finish. Un autre stunner, lève le bras pendant le tombé, false finish. Le crowd capote tout le long. JR comme commentateur, Austin gagne. Et JR, il va de son fameux Stone Cold.
Ouais.
Il dit, Bischoff got what he deserved, the son of a bitch, the Texas Rattlesnake. Snake is back. 16,000 is standing. Puis là, JR est debout. Puis là, le gars, il dit, le gars, il dit, pourquoi t'es debout, JR? Le gars, il dit, 16,000 is standing. I can do it. L'affaire de même, là.
Ah, il était en feu. Bischoff, tu savais que c'était un legit kickboxer.
Oui.
Ouais, fait que ça,
4 sur 5, j'ai mis sur ce match-là. Le match, juste parce que le match était... Ça a pris quoi? C'est combien de temps?
4 minutes 26, le match.
C'est tout ce qu'on avait besoin. Moi, j'ai mis 4 sur 5. J'étais sur le bout de ma chaise pour 4 minutes, j'ai trippé.
Meltzer a mis 2 étoiles et quart seulement. C'était le avant-dernier match d'Austin. Il a fait un match contre Bischoff le 17 mars contre Raw. Et son dernier match a été contre The Rock à WrestleMania 19 le 30 mars. Donc,
ça serait fun de faire WrestleMania 19.
On a eu la chance de voir un des derniers matchs de Steve Austin. Oui, on pourrait l'ajouter à la liste, absolument.
Hogan contre The Rock. Rematch de WrestleMania 18.
Finale? On est rendu à la finale?
Oui. Oui. Moi, ça va vite.
Oui.
L'arbitre spécial, Sylvain Grenier.
Oui, ben ça, tu connais-tu un peu l'histoire derrière
mais
ça?
Mais je me suis dit, Pat, il va me raconter. J'ai pas checké. Là.
OK, bon, Grenier, dans le fond, avait commencé à s'entraîner en Floride avec Rocky Johnson, le père du Rock.
Mm-hmm.
Et puis, il voulait commencer à l'envoyer sur la route parce que tout ce qu'il avait fait à date, c'était des matchs au Canada. Il avait lutté entre autres contre Christian une couple de fois. Sauf que là, il y a eu des problèmes de visa. Fait que il a fallu qu'ils attendent pour un visa. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Imagine-toi donc, la WWE, Carl DeMarco, qui était président de la WWE au Canada, il a je sais pas où il a cherché, mais il est tombé sur le nom de Jean-François Kelly, qui était à ce moment-là un des représentants de la NCW ici à Montréal. Il l'a appelé puis il a dit, écoute, on a un gars québécois qu'on aurait besoin de faire lutter, puis on peut pas l'amener aux États-Unis. Est-ce que vous seriez prêt à l'accueillir? Fait qu'il a dit, bon, OK, ben, ils sont arrangés. Puis Sylvain a lutté à la NCW.
Ouais.
Avant même de faire ses
c'est
vrais
quand même drôle, cette histoire-là.
À la WWE. Donc, fin 2002, début 2003, deux semaines avant No Way Out, là, il luttait en équipe avec Frankie the Mobster.
À Montréal. Ben, tu vois, j'ai bien fait de pas checker parce que j'aurais pas trouvé ça.
et puis il s'est entraîné 2-3 semaines sur la route comme arbitre avec Mike Chioda en prévision de ce match-là. Et puis il avait fait aussi, il avait arbitré le match de Sunday Night Heat entre Rey Mysterio et Jamie Noble.
C'est lui qui l'avait
arbitré. Et puis c'est l'arbitre de ce match-là. Puis il y a quelque chose qui se développe. On va en parler dans pas long.
So meilleur heel work de The Rock de sa carrière. Hier, c'est cette période.
Il jouait le rôle là, du gars qui s'est fendant. Là. Il
venait... Cocky Hollywood star.
Oh, ben, il venait de faire Scorpion King, qui était son plus gros succès là, à ce moment-là. Puis il avait quand même fait la momie là, avant. Là, fait que là, il commençait à break out là, à Hollywood.
Le meilleur heel work de The Rock.
Hogan, il est tellement populaire à Montréal, par contre. Ouais. T'as un gros
pop.
C'était la première fois qu'il revenait dans le ring après août 2002. Quand il avait perdu contre Brock Lesnar. Fait que beaucoup, tu sais, c'était un show important.
C'était un gros show.
Ouais, c'était un gros show.
Le vidéo package de The Rock avec l'hélicoptère, puis l'entrée, puis la toune.
Ouais.
Je t'ai dit.
Sa toune changée, là.
Ouais.
C'était pas le classique qu'on a habituellement.
On n'avait pas le Real American de Hulk Hogan.
Non, mais ça, ils ont la WWE. Tu l'as sur aucun show.
OK, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, je vais demander parce que.
Ils veulent pas payer pour les droits, je pense.
Well, it's fucking stupid parce que c'est Hulk Hogan. Je déteste les matchs d'Hogan. Je déteste les belt spots. Pourquoi tu le disqualifies pas? Même chose pour les matchs de Cody.
Excuse-moi, là, je me reprends sur ce que j'ai dit. C'est pas Real American qui ont pas les droits. Il est pas rentré sur Real American là-dessus.
Non,
il est rentré encore sur la toune de la NWO.
Non, il est pas rentré sur NWO. Il est rentré sur un mash-up de toune
de
guitare.
Oui, mais ça, c'est la toune qu'ils mettent parce qu'ils ont pas les droits de la toune de la NWO. La toune sur laquelle Hogan rentrait dans la NWO, c'est cette toune-là qu'ils ont pas les droits.
Okay,
et Hogan rentrait encore là-dessus à ce moment-là.
Okay, mais...
Parce que Real American, ils l'ont. Là. Okay. Ça leur appartient.
Mais ils pourraient acheter celle de NWO.
Ah, mais là c'est une autre affaire.
Je disais quoi, là?
Excuse-moi, ouais, j'étais comme...
J'haïs les belt spots.
Ah,
c'est un objet contondant. Tu devrais te disqualifier.
Ouais.
Mais pourquoi il garde. Chaque match d'Hogan, il y a le spot du belt, là.
Ah, tu veux dire la ceinture?
Oui.
Pas la ceinture, le championnat.
Non, la ceinture qui est autour de la taille, là. Même juste pour Cody, quand il fait jaillir
ça. C'est un objet contondant.
Ben, c'est un objet, man.
Mais pas contondant.
Mais c'est pas. C'est un objet.
Ben oui, c'est un objet.
Orange Cassidy se fait frapper par une orange. J'ai disqualifié, là.
Oui, mais c'est un objet comme la botte, c'est un objet. Si, mettons, tu perds ta botte,
oui, mais là,
tu frappes l'autre avec
si
ta botte.
Si tu perds ta botte, tu l'enlèves et tu le frappes, c'est un objet.
Ben oui, mais c'est un objet avec lequel. T'es venu dans le ring pis t'as le droit?
Oh non, man! Moi, je trouve que c'est un objet!
Ben oui, mais ton linge, oui, mais je comprends, mais...
Ok, ça veut dire que si je rentre avec un point américain pis je décide de l'enlever pendant le match pis
ben
je le frappe...
si l'arbitre l'a pas vu, tant pis pour lui.
En tout cas, moi, c'est
pour ça
que j'aille.
Il fouille au début?
Il fouille plus.
Ben non, il fouille plus, mais il fouillait.
La foule triple, la foule capote, ils sont contents. Hulk spot. Moi, je trouve que c'est un très mauvais match. Hulk et Hulk up, leg drop. Les lumières se ferment, les lumières se réouvrent. L'arbitre est down, il y a une chaise dans le ring. L'arbitre slide la chaise à The Rock. Rock frappe Hogan.
Ben là, Vince est sorti, là.
Ouais, Vince est là. Rock frappe Hogan pendant que Vince distrait Hogan. Rock bottom, 1, 2, 3, c'est fini.
Ben là, c'est là qu'on s'aperçoit que l'arbitre, dans le fond,
c'est un crooked, là.
C'était, ben oui, c'est ça, Sylvain, tu sais, il s'était pas fait frapper, il était à terre. Et puis.
J'ai trouvé ça beau que Vince lève la main de Sylvain et The Rock.
Ouais.
Au milieu du ring. Tu sais, le gars, il vient d'ici, j'ai trouvé ça cool.
12 minutes 20.
Shit match. Moi, j'ai mis 2 sur 5.
Ben,
shit match.
Meltzer a même pas donné de rating. C'est lui, dans ce temps-là, il met Dud, là. Il met pas de rating. Fait, tu sais, il était de ton avis, c'était
pas. Ben, c'était pas bon. C'était pas bon. Vince attaque Hogan à la fin. Vraiment pas un bon match, mais le charisme était off the hook. C'est pour ça que j'ai mis 2.
Mais c'est ça. Fait, tu sais, ce qui était le fun pour la foule, c'est, tu sais, quand il a kické out du Rock Bottom, pis, tu sais, il a kické out du Rock Bottom, pis de 2 People's Elbow. Puis ensuite, ben, il y a All Cup, Big Boot, Leg Drop.
Ouais, ouais. Right. Deux people elbow, puis All Cup.
Et tout ça. Et puis, ben, tu sais, t'as-tu compris comment, ce que Michael Cole a dit à la toute fin? It's a screw job. It's a screw job parce que c'était le premier pay-per-view à Montréal depuis le Montreal Screw Job. Ça a été une thématique qu'ils ont fait beaucoup trop souvent à Montréal. Ils l'ont fait le pay-per-view d'après Breaking Point avec CM Punk,
ouais, c'est vrai,
puis Undertaker.
6 sur 10 la carte.
C'était un événement important, mais ça a peut-être pas été le meilleur show de lutte qu'on va avoir vu.
C'est sur 10.
Mais c'est fair. Ce que je veux parler par contre sur le dernier match, ça allait mener ce match-là à Hogan contre Vince McMahon à WrestleMania. Puis Sylvain Grenier était encore intervenu à ce moment-là parce que Vince à un moment donné envoie Brian Ebner, le fils d'Earl ou de Dave, le fils d'Earl, l'autre bord de la à l'extérieur, puis là il demande à son ref de venir. C'est Sylvain qui arrive. Et puis on l'a nommé à No Way Out. On disait c'était Sylvain Grenier, un arbitre de Montréal. Ça, je trouvais ça cool. Et puis finalement, ça a rien donné pour Vince. Puis Hogan a quand même gagné le match. Mais c'est par la suite que Sylvain a commencé officiellement avec la compagnie. Donc c'est les débuts de Sylvain Grenier à la WWF.
C'est le temps du quiz. Film numéro 1 au box office.
En 2003.
Ouais.
Moi, je suis un gars d'indice. Là.
C'est un film de super-héros.
Un des Spider-Man.
Non.
Celui de Tobey Maguire. Maudit.
Daredevil.
Daredevil avec Ben Affleck?
Yep.
Ah, OK. Bon, au moins, j'avais Ben Affleck. Ouais.
Excuse-moi. Là. OK, numéro 2. Hit numéro 1 au palmarès. C'est deux personnes qui chantent, une fille et un gars.
Oh boy, en 2003? C'est-tu comme du hip-hop?
Ouais.
C'est-tu genre Missy Elliott?
Non. All I Have de Jennifer Lopez et LL Cool J.
Oh, wow! Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça.
OK, celle-là est tough, Pat. T'es prêt? Ouais. Celle-là est tough. Là.
Celle-là est tough.
Je suis créatif dans mes questions, tu le sais. Ouais. Le 22 février 2003,
oui.
Donc la veille, il y a un match où le Canadien perd 5-3 contre les Maple Leafs de Toronto.
Merci de me dire au moins le pointage.
Il y a eu 8 buts dans le match.
Oui, 5-3. Ouais.
OK. Est-ce que tu es capable de me nommer un débuteur du match? Juste un. C'est Toronto Maple Leafs en 2003.
Toronto Maple Leafs?
Toronto contre Canadien en 2003. Est-ce que tu es capable de me nommer un gars qui a scoré dans le match de 5-3?
Sakou Koivu?
J'ai une deuxième chance. Tu as 3 chances.
2003, et le Canadien ne levait pas haut, me semble, en 2003. Et que non. 2003, que j'ai essayé d'être on the spot.
Croyez-vous, il y a eu une passe.
Ah, OK, cool. écoute, donne-moi des indices.
Mais là, je suis écrit.
Ah ouais, il y a 8 joueurs.
OK, ça a une dernière chance, là, sinon c'est trop long.
Je sais pas.
OK, so, les marqueurs, Alexander Mogilny, Richard Zednik, là, quand il voulait
à Montréal, ben oui.
Joey Junot, Chad Kilger,
oh,
Matt Sundin. Moi, je croyais que t'allais dire Matt Sundin.
J'ai pas pensé.
Ty Domi, Nick Antropov et Gary Roberts.
Le seul que j'aurais pu avoir, c'est Matt Sundin.
Ben, quand même, t'es pas Ty Domi, mais Gary Roberts, dans ces années-là, il se
connaît. Ouais, mais il aurait fallu que je le place à Toronto à ce moment-là. Puis Mogilny aussi, là, c'est pas là que je joue le plus souvent. Mogilny à Toronto, j'ai même pas de souvenirs.
Non, man, il a joué genre 2 ans là-bas. OK, celle-là est tough, par exemple. T'avais-tu? Ah, celle-là est quand même tough, par exemple.
Tu pourrais-tu me faire un quiz facile à
Mais non, mais le but, c'est que les gens à la maison jouent aussi. Les Lakers battent Seattle.
Le but, c'est que les gens à la maison aient des bonnes réponses, eux autres avec.
Crime, il y a des gens qui ont eu Daredevil, là. Les Lakers battent Seattle 106-101.
Quand, ça?
Le 23 février 2003. Je te donne 3 chances. combien de points Kobe a drop? C'est une de ses bonnes games en carrière. Combien de points il a drop?
Hey, j'ai su un plus ou moins, là.
Plus que 30.
Non, mais je veux dire, je suis obligé de l'avoir juste ou tu me donnes un plus ou moins 5?
Je te donne 3 chances. Entre 30 puis 50, t'as 3 chances. T'as 17 mauvaises réponses.
48.
Non.
46.
Non.
Ben oui, mais là.
Il t'en reste une chance.
Ben oui, j'ai 17 chances de me tromper. Une de ces bonnes games. 49.
Ah, oh, fuck. Non.
Pourquoi tu sacs? C'est combien?
41.
Ben, Colin, c'était pas une de ces bonnes games.
Numéro 6. Numéro 5, question 5. Qui est le champion NWA?
En 2003?
À ce moment-là du pay-per-view.
champion NWA en 2003.
Le 23 février 2003.
AJ Styles?
Non. Mmh. Jeff Jarrett règne de 8 mois défait par AJ Styles.
Ah, bon.
Demi-point.
Demi-point.
Qui est le champion ROH en, le 23 février 2003? Et ça, j'ai été surpris.
Ouais, ça, je devrais avoir ça.
Plus un indice?
C'était, non, il est commentateur à WWE maintenant, ça se peut-tu?
Non.
Non, OK, c'est pas lui d'abord. Non. C'est Xavier?
Non. Adam Cole.
Hein?
Adam Cole.
Non.
Comment, non?
Non, Adam Cole n'est pas champion de Ring of Honor en 2003. Mmh. Non. Non. En 2003, si je me trompe pas, c'est Samoa Joe qui a perdu contre Austin Aries. Pas long. Mais si je me trompe pas, c'est Xavier ou Samoa Joe. C'est un des deux. Je suis presque sûr.
Fait que 23, on est 2003. Là.
2003, Adam Cole luttait pas en 2003, Kev. Pas de faire de peine, là.
Ah, je suis... Attends.
Come on! Il a fait 2013, lui.
Attends.
Je sais pas si tu savais, mais en 2014 ou en 2004, c'est il y a 26 ans, selon Kevin.
Shit.
Puis c'était qui?
Shit, j'ai fait 2013. Damn!
Ah, je viens de dire, en plus. Pour ça, je devrais avoir une bonne réponse. Merci.
Ben, veux-tu savoir la réponse?
En 2003?
Ouais.
Mais c'était Joe Xavier. C'est Samoa Joe Xavier. Ah,
c'est Samoa Joe.
Ben oui, c'est ça. Colin. Hey, en plus, qui fait des questions pas possibles, faut que je corrige le gars qui fait les questions.
Oui, mais c'est là. Hey, excuse-moi, là, mes questions étaient très bonnes, puis je me suis juste trompé.
Ah, ben oui. Hey, pour vrai, m'attends à faire un quiz la prochaine fois.
Fais-en un, bro.
Parfait. Tu vois, ça va être un quiz le fun, que tu vas avoir une couple de bonnes réponses.
Hey, excuse-moi, là.
Tu seras pas obligé de le reprendre.
Box office, puis la musique, c'est
Fred,
très facile.
Je m'occupe du quiz le prochain coup.
C'est quoi le pay-per-view?
Où est-ce qu'on peut? Ben, je sais pas, là. On va prendre le temps d'y penser, là.
Cube, oh. Stitcher, Apple Podcasts, Spotify, laissez-nous 5 Star Frog Splash, laissez-nous des commentaires, suivez-nous sur Instagram, @KevinRaphael21, @PatLaprane.
Ben, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde.
Mais c'est quoi le prochain pay-per-view?
Je sais pas, on va y penser. On peut-tu y penser? Si vous avez des suggestions, on a déjà une liste, là. Faut jouer à travers. Ok, tu veux, je le fasse là.
Mais j'aime ça le donner au peuple.
Tu vas me gosser jusqu'à temps que je trouve la liste. À ta minute, ici, je l'ai ici. Donc, je propose.
Donne-moi trois choix, puis je vais choisir. Dans la liste.
C'est le fun. Moi, j'ai mon mot à dire. Starcade 87. WrestleMania 9. Ou Canadian Stampede 97.
WrestleMania 9.
WrestleMania 9, mesdames et messieurs, la prochaine fois qu'on va faire un Antipode Extra en mon nom et celui de Kevin Raphaël, on vous remercie d'avoir été là et on vous dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.